The assembly will now hear a statement.
À présent, l'assemblée va entendre une allocution du président de la République de Moldova, monsieur Yuri Leancha. Je prie le protocole d'escorter son excellence.
I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the.
J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République de Moldova, son Excellence Yuri Leancha, et je le prie de prendre la parole devant l'Assemblée générale. Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, Excellence, qu'il me soit d'abord permis de féliciter Monsieur John Hinch d'Antigua et Barbuda à l'occasion de son élection à la présidence de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies et lui souhaiter plein succès dans cette position très honorable. Je suis confiant que sa diligence et sa perspicacité concourront à nos efforts de relever les défis du monde d'aujourd'hui. Je voudrais remercier également M. Vuk Jeremic à la tête de la 67e session de l'Assemblée générale et je lui souhaite plein succès professionnel. Mes hommages s'adressent au secrétaire général, M. Ban Ki-moon, qui a fait un travail inlassable pour promouvoir la paix, la sécurité, les droits de l'homme, la prospérité dans un environnement mondial viable, ainsi que ses efforts pour rendre cette organisation plus transparente et plus efficace. Avant d'entamer mon discours, j'adresse mes condoléances et ma sympathie aux victimes de l'attentat au Kenya. Les Nations unies sont en train d'élaborer le programme de développement du poste de l'après 2015, qui sera une poursuite et une avancée de ces engagements ambitieux énoncés dans la déclaration du millénaire. Je salue l'ouverture cette semaine du dialogue de haut niveau sur le développement durable en tant qu'étape vers la mise en œuvre du document final de Rio+20. Nous espérons que le dialogue de haut niveau appliquera les trois piliers du développement durable, la prospérité économique, l'équité sociale et la protection de l'environnement, avec un ferme engagement des États membres de répondre aux attentes en ce qui concerne ces domaines prioritaires. Nous rappelons les efforts importants qui ont été pris, faits à Rio.
Moldova. Le développement durable est la seule voie d'assurer une vie décente pour la population. Il s'ensuit que nous devons assurer le développement économique et résoudre les problèmes de sécurité énergétique et en même temps rendre écologiquement sain l'environnement. C'est à cet égard que mon gouvernement œuvre assidûment en partenariat avec les parties prenantes internationales, en particulier avec l'Union européenne, qui servent comme point de référence pour nos politiques nationales. Nous sommes convaincus que la volonté politique, l'assistance mutuelle et la transparence sur toutes les questions importantes peuvent apporter des changements positifs, autant pour les économies développées, émergentes, pour que celles pauvres. Nous réaffirmons qu'aux questions telles que l'éradication de la pauvreté, les droits de l'homme et la tolérance, l'accès à une éducation de qualité sans discrimination envers les garçons et les filles, l'emploi décent pour tous, la préservation de la nature et de la biodiversité devraient être accordés une priorité spéciale sur l'agenda des Nations unies pour le développement au cours des années à venir. La coopération intersectorielle est aussi une question clé. C'est pourquoi les partenaires internationaux, la communauté des donateurs, y compris le secteur privé et la société civile, devraient travailler main dans la main avec l'ONU et le gouvernement afin de mobiliser les ressources nécessaires et les cibler pour des projets concrets, axés sur les résultats ainsi que des investissements dans ces domaines vitaux. Je voudrais aussi aborder les problèmes de la migration et de la dynamique de la population. Les Nations Unies ont reconnu à plusieurs reprises que la migration peut être bénéfique autant pour le développement des pays d'origine que pour les pays de destination. Lorsque la coopération internationale est renforcée et des politiques adaptées sont mises en place. C'est certainement le cas de la République de Moldova, où la migration a contribué à la stabilité macroéconomique au cours des dernières années. En même temps, nous sommes dans une phase de changement considérable susceptible d'influencer notre paradigme démographique, économique, social et de sécurité de la population. Sans doute, investir dans le capital humain est essentiellement une porte de sortie de la volatilité démographique et une condition indispensable pour la prospérité du pays, tout en assurant le respect des droits de l'homme. C'est de cette manière que nous visons à diminuer l'interdépendance entre le développement et le flux de la migration et de créer un environnement favorable au développement communautaire, y compris de petites et moyennes entreprises, à l'aide financière directe du budget de l'État. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur les exemples positifs apportés par le partenariat pour la mobilité entre la République de Moldova et l'Union européenne. Cette initiative a renforcé la capacité du gouvernement de formuler et mettre en œuvre des politiques de migration, trouver des priorités communes avec l'UE et développer des initiatives législatives innovatrices et stratégiques fondées sur les meilleures pratiques. Il est certain que nous devons continuer dans cet esprit, qui est le seul moyen de trouver des solutions mutuellement acceptables pour la migration régulière et circulaire dont pourront bénéficier nos citoyens, en assurant la protection des droits de l'homme et garantissant la sécurité sociale. Monsieur le Président, permettez-moi de mentionner une des plus importantes réalisations de notre auguste Assemblée, l'adoption du traité sur le commerce des armes, qui est devenu possible après plusieurs années de débats et négociations intenses sur la réglementation du commerce mondial des armes. La République de Moldova a signé le TCA et nous espérons que l'entrée en vigueur rapide du traité rendra plus transparent et plus légitime le commerce mondial des armes. Le TCA pourrait être un grand pas en avant pour maîtriser la prolifération et la circulation illicite des armes, surtout dans les zones vulnérables et celles qui ne respectent pas le régime constitutionnel des États souverains. En outre, le gouvernement collabore étroitement avec ses partenaires européens et internationaux, surtout avec l'Office fédéral pour l'économie et le contrôle des exportations de l'Allemagne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en vue de revoir et modifier la législation nationale sur le contrôle des exportations des biens à double usage afin d'adopter les meilleurs standards et expérience internationale dans ce domaine. Monsieur le Président, depuis que les membres du Conseil des droits de l'homme, mon pays a achevé le premier cycle de l'examen périodique universel, qui est à notre avis un des meilleurs exercices pour surveiller et évaluer les résultats des institutions et mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme. En même temps, nous avons convenu de prendre de nouveaux engagements pour faire face aux défis lors de la mise en œuvre des recommandations issues de l'EPU. La République de Moldova continue à plaider en faveur de l'examen de la situation des droits de l'homme par tous les pays et affirme qu'un Conseil des droits de l'homme robuste, non politique et impartial devrait exercer une autorité plus grande, surtout dans les cas de violations graves des droits de l'homme, et devrait également donner des orientations sur la mise en œuvre des meilleures pratiques et standards dans ce domaine. Mon gouvernement a l'honneur d'annoncer la tenue du 4e séminaire des pays francophones, au commencement de la prochaine année à Chisinau, notre capitale, en vue d'examiner les résultats et de tirer des enseignements du premier cycle de l'EPU. Nous espérons que les conclusions de cette conférence pourraient contribuer à l'avancement, au renforcement et à l'amélioration de l'EPU en tant que mécanisme unique de l'examen des pratiques en matière des droits de l'homme de tous les États membres de l'EF.
Monsieur le Président, la République de Moldova applique un programme de réforme intense et globale, politique, économique, institutionnelle, législative, démographique, judiciaire et plus encore. Nous sommes fermement attachés à l'édification d'un État fondé sur l'État de droit, la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité. Par le biais de ces efforts difficiles, nous deviendrons une nation plus ferme, plus forte et un meilleur partenaire international. Nous devons aller de l'avant. Dans ce contexte, nous sommes fiers de dire que le gouvernement s'est engagé sur une nouvelle voie de modernisation technologique pour donner un accès public direct aux services gouvernementaux. Notre but est de faire en sorte que tous ces services publics soient disponibles par voie électronique pour tous les citoyens d'ici à 2020 en utilisant des communications et des technologies modernes tels les ordinateurs, les téléphones mobiles et des offices de paiement interactifs. La République de Moldova est parmi les dirigeants dans le domaine de la lutte contre la corruption, la réduction de la bureaucratie. Ceci a déjà porté des fruits réels pour nos citoyens grâce à la mise en œuvre d'un catalogue électronique pour les services publics, la signature numérique mobile, les portes de paiement électroniques, etc. Ce programme de réforme ambitieux du gouvernement et sa politique étrangère sont dirigés par la réalisation des objectifs stratégiques du pays, notamment l'intégration européenne. À cet égard, nous avons mené des négociations avec l'association d'accord de l'Union européenne. Un accord de libre-échange profond et global. Toutes ces actions, l'association politique à l'Union européenne, la situation économique, la perspective d'un voyage sans visa pour nos citoyens nous approche de notre finalité, à savoir l'intégration européenne, offre de nouvelles perspectives pour la coopération politique et économique dans la région. Chaque année, ma délégation attire l'attention de l'Assemblée sur la question du conflit prolongé dans la région du Transnistre qui touche mon pays depuis son indépendance. En tant que pays épris de consolidation et d'unité nationale, ce conflit demeure un défi constant qui sape nos efforts de développement. Le règlement politique du conflit et la réinsertion de la région représentent notre priorité stratégique, envisageant une unité de la population des deux rives de la rivière Nistru, la rassemblant autour d'objectifs communs, lui donnant un meilleur avenir. Cela veut dire qu'il faut éliminer les défis les plus importants à la sécurité nationale, le développement économique et la cohésion sociale. En fin de compte, régler ce conflit veut dire garantir des frontières nationales sûres et ouvrir une nouvelle perspective de stabilité et des relations bilatérales et équitables et fructueuses avec nos voisins et partenaires internationaux. La paix et le dialogue sont des préalables fondamentaux à une solution politique de tout conflit. Mais je souligne qu'il y a plus de deux décennies de paix dans ma région. Nous n'épargnerons aucun effort pour la préserver. Nous sommes attachés au dialogue. Mais pour atteindre le résultat souhaité, nous avons vraiment besoin de confiance à l'intérieur du processus de règlement et un engagement de l'extérieur. Nous préconisons la poursuite des mesures de confiance qui se déroulent depuis 2007 avec le soutien du PNUD et de l'Union européenne afin de combler toutes les lacunes entre les parties prenantes des deux rives impliquant les collectivités locales, les communautés commerciales et la société civile. La vision de mon gouvernement est sans ambiguïté et inclusive. Tout d'abord, la solution globale et viable doit se baser sur le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes ouverts à un compromis raisonnable sur le statut spécial de la région dans la République de Moldova avec la, qui donnera à la population de la rive gauche des degrés de confort garantis d'autogouvernance. Il doit y avoir un espace unique constitutionnel, économique et de défense internationalement reconnu dans nos frontières. En même temps, notre pays doit demeurer un État qui fonctionne, qui continue de s'avancer sur la voie européenne et faire des efforts pour permettre à la population et la communauté commerciale de bénéficier de ce partenariat étendu avec l'Union européenne et, si possible, à l'intérieur de l'Union européenne. En ce qui concerne le règlement de conflit, nous continuerons de redoubler d'efforts pour régler les problèmes le long des rives de la rivière Dniestru. Et nous souhaiterons continuer de convaincre nos partenaires à entamer des pourparlers sur les questions politiques et de sécurité. Nous souhaitons maintenir la stabilité dans la zone de sécurité et réaffirmer notre prise de position quant au besoin de transformer le mécanisme de maintien de la paix en mission civile internationale. Renforcer le respect des droits de l'homme est d'une importance cruciale pour nous. Le rapport du conseiller de haut niveau des Nations Unies pour les droits humains dans la région transnistrienne de la République de Moldova, M. Thomas Hammarberg, offre une bonne feuille de route pour des activités communes dans ce contexte. Je souhaite également réaffirmer notre appel de longue date et sans relâche de parachever le retrait des forces militaires russes et des munitions du territoire. Conformément aux engagements internationaux, pour conclure ce chapitre, je souhaite dire que la conviction de mon gouvernement est que notre avenir sera plus radieux si nous unissons nos efforts pour reconstruire un pays plus fort et uni, ouvert à l'Europe auquel il appartient, ouvrant se prêtant à la diversité dans le respect de la tolérance, offrant des opportunités de marché et économiques. Nous sommes optimistes quant au succès. La République de Moldavie est attachée à la paix, au dialogue réel et constructif. Nous suivons avec préoccupation la violence qui se poursuit au Moyen-Orient. Nous regrettons les pertes de vie. Et les blessures irrémédiables qui vont marquer une des générations futures. La crise des réfugiés en Syrie renforce le mal de la guerre. Mon propre pays a offert protection à bon nombre de réfugiés syriens. Nous comprenons le fardeau important pour les voisins de la Syrie et autres pays d'accueil. Il incombe à toutes les parties de prendre un peu de recul, trouver une solution pacifique, construire un avenir pour les peuples plutôt que de poursuivre des objectifs politiques souvent mortels. Pour conclure, j'exprime l'espoir que durant cette session, les membres de cette auguste assemblée parviendront à des décisions importantes sur des questions d'actualité telles le développement durable, la paix, la sécurité, les droits de l'homme et d'autres encore. Ma délégation est prête à apporter sa contribution sur la base de la collaboration et de façon constructive. Je vous remercie.
Au nom de l'Assemblée générale, Je voudrais remercier le Premier ministre de la République du Moldova de la déclaration qui vient d'être faite et demande au protocole d'escorter son Excellence.
The Assembly will now hear a statement by His Excellency.
Nous allons maintenant entendre une allocution de Thomas Watt, son Excellence Thomas Massava, ministre de la Défense, ministre de la Police, de la Sécurité nationale, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense du Royaume du Lesotho. Puis-je demander au protocole d'escorter son Excellence?
I have great pleasure in...
J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre et chef de gouvernement, ministre de la Défense, de la Police.